Radio Orient présente Pluriel.
L'invité de Pluriel, Karim Amelal, tête de liste La République En Marche aux élections municipales dans le 10e arrondissement de Paris, aux côtés de Benjamin Griveaux, écrivain, enseignant à Sciences Po Paris, co-auteur du rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Bonsoir.
Bonsoir.
L'actualité en France, Karim Amelal, c'est bien entendu ce mouvement social contre la réforme des retraites, mouvement qui paralyse presque totalement les transports publics, particulièrement en Île-de-France. Comment jugez-vous l'approche du gouvernement face à ce conflit social ?
Bah, écoutez, je crois qu'il y a une... D'abord, je comprends hein, que cette réforme, qui n'est pas une réforme mince, qui est une réforme de très grande ampleur, suscite des préoccupations, des inquiétudes, peut-être parfois une certaine méfiance. Je comprends bien ça. Je crois que c'est une réforme importante. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement a un projet qu'il essaye d'expliquer. Il faut beaucoup de pédagogie et en même temps, il y a des négociations qui ont été lancées, qui durent depuis un certain temps. Je crois qu'il faut que ces négociations avec les partenaires sociaux et avec en particulier ceux qui sont autour de la table, hein, c'est pas le cas de toutes les organisations syndicales, eh bien que ce dialogue et que ces négociations aboutissent. Je suis assez optimiste. Après, je comprends bien que ce soit une période compliquée pour tout le monde et en particulier pour ceux qui essayent d'aller travailler. C'est aussi mon cas, hein, comme beaucoup d'autres gens. Et qui sont paralysés par ce mouvement-là.
Le gouvernement n'a pas précisé le contour de cette réforme des retraites. C'est aussi ce flou qui suscite la crainte des citoyens, selon vous ?
Oui, mais c'est effectivement, mais en même temps, s'il avait précisé le contour avant l'aboutissement des négociations, tout le monde aurait dit le gouvernement impose ses vues sans négociation, en dehors de toute forme de négociation. Donc il y a un processus qui est en cours, il y a un projet avec un certain nombre d'objectifs ou de grandes orientations qui ont été annoncées depuis très longtemps en réalité, hein, l'idée de sauver le régime de retraite par répartition à travers un système par points est quelque chose que Emmanuel Macron avait lancé durant la campagne présidentielle. Donc les grandes idées et les grandes orientations sont sur la table et elles font l'objet d'une négociation, d'un dialogue social, et je crois qu'il faut que tout ça aboutisse avant que les uns et les autres puissent se positionner définitivement sur la base de ce qui sera le projet du gouvernement. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Après, je comprends que ce processus, qui est un processus compliqué, qui fait intervenir plein d'acteurs, et qui est un processus qui concerne, je veux dire, qui nous concerne tous, c'est un énorme sujet, la question des retraites. Donc ça prend du temps, ça suscite des inquiétudes qui sont légitimes, mais je crois qu'il faut laisser ce dialogue social, qui est très bien engagé, se poursuivre et aller jusqu'à son terme.
Ce sera précisé mercredi prochain par le Premier ministre, au lendemain d'une nouvelle journée nationale de mobilisation. Une majorité de Français soutient cette grève malgré les difficultés que cela engendre pour eux. Comment vous expliquez ce soutien ?
C'est un peu ce que vous disiez à travers vos questions. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à, encore une fois, un projet qui concerne tout le monde, qui concerne notre avenir, qui concerne l'avenir de nos enfants et de ceux qui suivront. Donc on a souvent l'habitude de dire que la réforme des retraites est un peu la mère des réformes. Donc il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de questions qui sont encore une fois légitimes, qui sont posées au gouvernement, auxquelles il s'efforce de répondre, et le Premier ministre le fera encore plus précisément mercredi prochain après la journée, la deuxième journée de grève. Donc c'est normal que ça suscite encore une fois beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questionnements, et c'est normal que les Français s'interrogent, ce qui transparaît, ce que votre sondage laisse transparaître, c'est ça, c'est un profond attachement à notre système de retraite par répartition, qu'il n'est évidemment pas question de détruire, mais au contraire de sauver, d'améliorer, avec plus de justice et en faisant en sorte que à travers le système par points, un point ouvre les mêmes droits pour tout le monde. Et puis ça traduit aussi un certain émoi et des inquiétudes qui sont légitimes par rapport à cette réforme fondamentale.
Lorsque vous faites campagne, notamment sur les marchés, que vous disent les riverains ?
Les riverains, d'abord, nous interpellent et nous questionnent sur, moi et tous les autres, et tous ceux qui m'accompagnent, et je pense que c'est le cas de tous les candidats, sur les problèmes du quotidien, sur vraiment des préoccupations très très concrètes sur la sécurité, sur la propreté, qui sont des sujets importants à Paris et dans le 10e en particulier, sur les écoles, sur des choses qui sont vraiment un certain nombre de nuisances qui se multiplient. Et donc c'est vraiment la priorité, c'est d'essayer de répondre à ces préoccupations-là, et c'est là-dessus qu'ils nous interpellent.
Nous allons aborder, bien entendu, ces problématiques, mais que vous disent-ils précisément sur cette réforme des retraites ?
Alors, ils nous disent qu'ils sont inquiets. Ils nous disent qu'ils sont inquiets, on essaye de les rassurer, on essaye de leur expliquer de quoi il s'agit. Je crois qu'il y a aussi, là, pour le coup, il faut un effort de pédagogie peut-être plus important, mais je crois qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup aussi de mauvaises informations, je ne vais pas dire que ce sont des fake news, mais d'informations erronées qui circulent. L'idée que tout le monde serait perdant avec ce système de retraite est une idée fausse. L'idée que le régime de répartition, régime de retraite par répartition, disparaîtrait au profit d'un régime par capitalisation est une idée qui est totalement fausse. C'est précisément l'inverse. Donc on essaye, à notre échelle, vous savez, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle des interpellations des habitants, de répondre à ces questions et puis de dissiper peut-être un certain nombre de malentendus d'informations erronées. Et je crois que c'est utile. La pédagogie dans ce genre de cas est toujours absolument essentielle et il faut, sur cette réforme-là, peut-être encore plus de pédagogie que d'habitude.
Or, pendant la grève, la campagne pour les municipales continue. La tête de liste, La République En Marche, Benjamin Griveaux, a organisé jeudi dernier l'opération SOS 5 décembre. Il s'agissait d'accompagner les riverains parisiens à l'occasion de cette grève des transports. Quelles sont ses propositions en matière de transport alternatif ?
Alors, effectivement, il faut évidemment multiplier les transports verts et les moyens de locomotion qui ne sont pas polluants. Je crois que beaucoup a été fait d'ailleurs par Anne Hidalgo, à travers les pistes cyclables, à travers l'utilisation du vélo, à travers les Vélib, avec un certain nombre d'insuffisances que l'on connaît et que je connais moi en tant qu'utilisateur du vélo. Je crois qu'il faut aller encore beaucoup plus loin et puis il faut développer aussi l'usage des transports en commun à une échelle peut-être plus large, qui est celle du Grand Paris, ce qui pose un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre sur des articulations à nouer, sur des extensions de lignes, sur des articulations à nouer avec des communes limitrophes de Paris. Et je crois qu'il faut raisonner à une échelle beaucoup plus large que l'échelle actuelle, que la simple échelle de Paris. C'est sur ces sujets qu'il faut être force de proposition. Benjamin Griveaux l'est. Il y a un autre sujet sur des mobilités alternatives que vous évoquez, comme celui de la trottinette, des trottinettes, c'est intéressant d'ailleurs parce que chaque innovation évidemment et chaque projet de ce type engrange ce qu'on appelle en économie des externalités qui sont positives parce que effectivement ça permet c'est un moyen de mobilité, c'est une manière d'être mobile supplémentaire qui permet d'aller plus vite sur de courtes distances, et en même temps il y a des externalités négatives qu'il faut prendre en compte et qu'il faut essayer d'anticiper. Sur la trottinette ou sur les trottinettes par exemple, c'est la question de la pollution visuelle, c'est la question des risques, des nouveaux risques qui sont encourus par les utilisateurs qui doivent effectivement faire très attention et qui doivent appliquer les règles du code de la route. Et donc je pense qu'il faut aussi, et c'est vraiment l'esprit de Benjamin Griveaux à mon sens, et plus généralement d'une nouvelle approche et peut-être plus pragmatique, il faut essayer de d'abord ne pas être contre la technologie, mais je crois que personne n'est contre la technologie ou les innovations de ce type, y compris sur les questions de mobilité, et puis essayer d'anticiper, d'accompagner des changements qui évidemment correspondent à ce que tout le monde souhaite, c'est-à-dire moins de pollution, c'est-à-dire moins de CO2, c'est-à-dire des moyens qui sont peut-être plus silencieux, en essayant d'anticiper aussi sur ces fameuses externalités, sur les risques que ces moyens de ces nouvelles mobilités peuvent poser.
Karim Amelal, vous êtes donc candidat dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes engagé depuis plusieurs années dans la prévention de l'extrémisme et la lutte contre les inégalités et les discriminations. Comment vous entendez traduire cet engagement à l'échelon local, en l'occurrence dans le 10e arrondissement ?
Alors, vous avez raison, je suis engagé depuis longtemps sur la question des inégalités, à travers un travail de réflexion, à travers aussi des engagements très concrets que je conduis avec, par exemple, une association dont je m'occupe aujourd'hui. Depuis toutes ces années, j'ai acquis une certaine connaissance, évidemment, de ces sujets, et puis un certain savoir-faire pour essayer, encore une fois, avec beaucoup de pragmatisme, et en essayant d'importer au service de l'intérêt général des recettes qui viennent par exemple du secteur privé, qui viennent d'autres pays, eh bien des choses qui marchent. Sur par exemple la question du décrochage scolaire à laquelle je me suis beaucoup intéressé, je crois qu'il y a un travail important à faire, encore une fois, beaucoup a été fait, mais on peut toujours faire plus et mieux, et c'est ce que je souhaite faire, en essayant d'expérimenter des choses qui ont marché ailleurs, qui ont marché dans d'autres villes, qui ont marché dans d'autres pays, en faisant par exemple sur la question du décrochage beaucoup plus de prévention plutôt que d'intervention a posteriori une fois qu'on a repéré le décrochage scolaire et en particulier les plus jeunes. Je crois que sur la question des sans-abri aussi, il y a peut-être de nouvelles choses à imaginer grâce à la technologie, grâce au numérique, grâce à des systèmes d'entraide, à des solidarités qui sont plus efficaces. Donc j'essaye d'avoir sur ces sujets-là vraiment, et j'ai créé avec d'autres une entreprise, je suis responsable associatif, j'essaye de développer des projets, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai vraiment envie de répondre aux préoccupations des gens avec mon parcours, avec ma réflexion, en particulier sur les sujets de discrimination, mais surtout d'inégalité scolaire, par exemple, avec beaucoup, beaucoup de pragmatisme, et en essayant d'être efficace, et en faisant en sorte que les gens puissent aussi nous demander des comptes. Je trouve que c'est normal, quand on a mené une action, qu'on a expérimenté à l'échelle locale, on doit pouvoir en mesurer l'impact et dire aux gens, voilà, on a essayé ça, on a essayé de régler ce problème avec telle et telle méthode, telle et telle recette, tel et tel outil, et ça a fonctionné. Voilà les résultats, ou ça n'a pas fonctionné, et on va essayer autre chose. Et je crois que vraiment, moi c'est mon approche, c'est ma philosophie, et je crois que c'est évidemment celle de Benjamin Griveaux, c'est pour ça que je le soutiens, et je pense qu'il fera un excellent maire de Paris, c'est une approche qui est non pas désidéologisée, parce qu'on partage un certain nombre de valeurs très importantes, et on s'inscrit dans le mouvement du progressisme, mais c'est une approche qui est peut-être plus efficace, plus pragmatique, plus concrète, pour essayer de prendre les problèmes tous ensemble, et puis essayer d'y apporter des solutions, non pas sans idéologie, mais des solutions qui ont peut-être un impact plus concret pour les gens. Voilà, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est ce que j'ai envie de faire.
Une approche plus concrète. Dites-vous, ce travail justement de lutte contre le décrochage scolaire, comment cela se traduirait sur le terrain ?
Alors, il y a des systèmes de... On est très fort sur le décrochage, mais de façon très générale, on est très fort pour intervenir a posteriori et pour essayer... alors, c'est ce que font un certain nombre d'acteurs, de missions sur la lutte contre le décrochage, l'éducation nationale ou d'autres acteurs. On est très fort pour intervenir a posteriori et pour essayer de traiter le décrochage une fois qu'on l'a repéré. Et effectivement, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs, et c'est un des acquis du quinquennat de François Hollande, c'est que je saluais d'ailleurs évidemment, ça a permis de diminuer de façon très importante le nombre de décrocheurs. Et en revanche, on est beaucoup moins bon sur le repérage en amont, sur la prévention en réalité du décrochage. Comment faire pour que des jeunes qui présentent un certain nombre de signes qu'il faut parvenir à détecter, eh bien précisément ne décrochent pas, parce que c'est très bien d'intervenir sur le décrochage une fois que celui-ci a été détecté, mais c'est encore mieux de l'éviter, le décrochage, et d'éviter que des jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme, sans aucune formation, de façon parfois très très précoce, parce qu'on sait aussi d'abord que le décrochage scolaire a un coût pour la collectivité, et puis que c'est toujours un peu les mêmes qui sont victimes de décrochage, c'est-à-dire des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité, notamment pas que parce que le décrochage est un problème malheureusement assez général et qui transversal aux classes sociales, aux catégories sociales. Mais on sait que ce sont les plus vulnérables qui présentent un risque de décrochage plus élevé. Donc je crois que vraiment c'est en essayant de d'intervenir sur la prévention qu'on peut faire un meilleur travail sur la question du décrochage. Mais enfin il y a plein d'autres problèmes auxquels il faut s'attaquer à Paris et en particulier dans le 10e, hein, sur la question de la propreté, sur la question de l'insécurité, ce qui pose la question de la police municipale. Bon, il y a beaucoup de sujets qui méritent, alors, pas davantage d'efforts en réalité, mais peut-être une autre approche.
Vous êtes favorable à la création d'une police municipale,
oui,
à Paris?
Bien sûr.
Oui. Sur l'inclusion des élèves handicapés, de nombreux élèves n'ont pas pu effectuer leur rentrée en septembre dernier, faute d'accompagnants. Quelle est la marge de manœuvre d'un maire d'arrondissement sur cette problématique?
Bah, écoutez, l'une des propositions importantes de Benjamin Griveaux, en la matière, et s'agissant des maires d'arrondissement, qui n'ont pas énormément de pouvoir, comme vous le savez, c'est précisément de renforcer leurs compétences, de renforcer leurs prérogatives. Et je crois que sur le sujet que vous évoquez, mais aussi sur le sujet de la propreté, bien que les maires d'arrondissement aient déjà un certain pouvoir, une certaine latitude, aussi sur la question de la sécurité, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est vrai, je soutiens vraiment je pense que ça va dans le bon sens de faire en sorte que les maires d'arrondissement aient beaucoup plus de pouvoir sur leur territoire, et y compris en matière d'éducation, y compris en matière d'accompagnement des enfants handicapés. Et je crois que par ailleurs, il y a aussi des choses qu'on peut... Enfin, la collectivité publique, c'est important, c'est central, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais je crois qu'il y a aussi, et c'est quelque chose que j'ai très envie de creuser, puis surtout de réaliser, je crois aussi qu'il y a de nouvelles manières de faire de la solidarité, des solidarités qui sont peut-être plus efficaces et qui passent par des réseaux d'entraide, qui passent par la mobilisation des citoyens, qui c'est là où justement la technologie ou des applications, des choses comme ça peuvent être utiles. Elles ne remplacent pas la solidarité nationale, la solidarité municipale et l'aide sociale, ce qu'on appelle l'aide sociale, évidemment. Mais il y a peut-être aussi en complément des modalités d'intervention qui sont nouvelles et qui peuvent avoir une utilité ou en tout cas être complémentaires par rapport au mécanisme traditionnel de l'aide sociale, par rapport à l'accompagnement des enfants handicapés, comme sur plein d'autres sujets.
Concernant la politique du logement, vous souhaitez maintenir l'encadrement des loyers?
Alors, c'est un sujet compliqué. Bon, dans le 10e, on a une mixité sociale qui est très importante, vous le savez. Donc c'est vrai que c'est une question assez sensible. Je suis favorable effectivement à ce que les mécanismes de spéculation soient encadrés et ne se développent pas au-delà de ce qu'ils sont, et à ce que, si possible, évidemment, les gens, les familles de la classe moyenne, des classes populaires, puissent continuer à habiter, non pas seulement dans le centre de Paris, mais à Paris tout court. Et pour ça, il faut absolument freiner les mécanismes de spéculation. Il faut, je crois, parvenir à encadrer de façon un peu plus précise Airbnb, qui contribue à certains endroits, et en particulier dans l'hypercentre de Paris, à l'élévation des loyers. Effectivement, ça, moi je suis premier chef concerné, comme beaucoup de mes concitoyens dans le 10e et beaucoup plus largement. Je veux dire, il est aujourd'hui devenu pratiquement impossible à quelqu'un de la classe moyenne, à un couple avec un enfant, deux enfants, de devenir propriétaire dans le centre de Paris, et notamment dans le 10e arrondissement, avec une flambée des prix. Je crois qu'il faut trouver des modalités intelligentes d'action pour évidemment, alors, ne pas dissuader toute forme d'investissement, pour ne pas dissuader, évidemment, ça va de soi, un certain nombre de propriétaires depuis parfois très longtemps, mais je crois qu'il faut parvenir à trouver des moyens pour que les classes populaires, les classes moyennes restent à Paris, continuent d'acheter des appartements à Paris, puissent le faire, ce qui dans la situation actuelle n'est, je le déplore, pas tout à fait possible.
Vous êtes bien sur Radio Orient, l'invité de Pluriel, Karim Amelal, tête de liste La République en Marche aux élections municipales dans le 10e arrondissement de Paris, aux côtés de Benjamin Griveaux. Vous êtes écrivain, enseignant à Sciences Po Paris, et nous nous retrouvons après une courte pause. Pluriel, deuxième partie, avec Karim Amelal, tête de liste La République En Marche aux élections municipales dans le 10e arrondissement de Paris, aux côtés de Benjamin Griveaux, écrivain, enseignant à Sciences Po Paris, notamment. Abordons ensemble la lutte contre la grande pauvreté, Karim Amelal. 612 personnes sans-abri sont mortes en France en 2018 contre 511 en 2017. C'est une estimation du collectif Les Morts de la Rue. Le 115, notamment à Paris, est saturé. Les associations demandent davantage de places d'hébergement. Cette question doit-elle être une priorité pour le candidat Benjamin Griveaux?
Oui, je crois que c'est un sujet évidemment important. Le taux de pauvreté, bien qu'il soit très variable dans la capitale, peut atteindre dans le 10e arrondissement, mais dans les arrondissements du Nord et de l'Est des proportions extrêmement importantes. C'est un sujet majeur. Vous parliez des sans-abri. C'est un sujet qui ne cesse, dont la gravité s'intensifie année après année, même si, encore une fois, des choses ont été faites, des choses ont été testées. Mais enfin, force est de constater, et on le voit bien dans le 10e en particulier, qui est un des arrondissements où il y a le plus de sans-abri à Paris, qu'on n'y arrive pas et qu'il faut, là encore, il n'y a pas de recette miracle, évidemment. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a un certain nombre de les problèmes sont intriqués parce que les sans-abri, effectivement, il y a de plus en plus, par exemple, d'enfants, il y a de plus en plus de familles, de mamans qui sont sans-abri. Enfin, c'est un sujet, moi, qui me touche personnellement énormément, et je crois qu'on n'a pas fait assez. Alors, il y a la question, bien sûr, des places et des places disponibles, il y a la question du 115, mais on sait aussi que beaucoup de familles, notamment, qui est un problème de passé assez récent à Paris, ne veulent pas aller dans ces hébergements-là, ne passent pas par le 115. Donc, je n'ai pas à ce stade de recette miracle, et je ne crois pas qu'il y en ait. Mais en tout cas, il faut développer des outils nouveaux pour adresser ce problème-là. Et plus généralement, je crois que la grande pauvreté, c'est pas uniquement la question des sans-abri. Il y a, et il y en a dans le 10e en particulier, comme largement dans le nord-est de Paris, mais il y a des problèmes qui sont liés à l'isolement des personnes âgées, l'isolement des mamans célibataires aussi qui se posent et qui s'inscrivent dans une aggravation de la pauvreté qui a des dimensions tout à fait multiples. Là encore, c'est quelque chose qui, moi, non seulement m'interpelle depuis longtemps, mais des sujets sur lesquels j'ai envie d'agir de façon concrète, avec des outils nouveaux, en essayant de regarder des expériences très intéressantes qui sont faites dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes dans le monde, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, ailleurs, des expériences qui ont été conduites pour essayer de remédier à ce problème, des sans-abri notamment. Je crois qu'il faut essayer autre chose, et il faut essayer de développer surtout de nouveaux outils, parce que ce qui a été fait, même si beaucoup de choses ont été faites, ne suffit pas.
Karim Amelal, vous êtes l'auteur d'un rapport sur la lutte contre la haine en ligne, un rapport qui a largement inspiré une proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Ce texte adopté à l'Assemblée nationale devrait être examiné au Sénat ce mois-ci. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les points phares?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un rapport que nous avons remis au Premier ministre en 2018 avec mes collègues Laetitia Avia et Gilles Taïeb, qui comportait 20 propositions fortes qui ont constitué le socle de la proposition de loi de Laetitia Avia qui est en train d'être discutée au Sénat en ce moment et qui a été adoptée par l'Assemblée nationale cet été. L'idée principale, c'est qu'il faut encadrer, ou il faut faire en sorte, notamment par des sanctions vraiment dissuasives, il faut faire en sorte que les réseaux sociaux les plus importants, Facebook et d'autres, suppriment ou fassent disparaître les contenus qui sont manifestement haineux, c'est-à-dire ceux qu'il n'y a aucun doute possible, hein, ceux, on n'est pas dans de la zone grise ou dans des choses qui requièrent une interprétation très très rigoureuse, on est sur de la haine brute, de la haine manifeste, dont je rappelle qu'il s'agit de quelque chose d'illégal. De la même manière qu'on ne tolère pas quelqu'un qui dit « sale arabe, je vais te tuer » ou « sale juif, je vais te tuer » dans la rue ou dans l'espace public traditionnel, on ne doit pas le tolérer non plus sur Internet. C'est la loi en France, cette loi est ancienne et elle s'applique dans l'espace public depuis très très longtemps. Et le problème, c'est qu'elle ne s'appliquait pas sur Internet. Donc nos propositions visent à ce que cette loi, ces lois en réalité, parce qu'il y en a plusieurs, s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux et nos propositions et la loi de Laetitia Avia visent à ce que les plateformes de réseaux sociaux fassent le ménage, non pas tout le ménage, il ne s'agit pas qu'elles fassent de la censure et qu'elles suppriment absolument tous les propos, y compris ceux qui sont un peu douteux ou qui se situent dans ce que j'appelais la zone grise, là, dont on ne sait pas trop s'ils sont vraiment racistes ou antisémites, etc. Mais il faut qu'ils fassent le ménage s'agissant des propos qui sont manifestement illégaux, c'est-à-dire manifestement xénophobes, racistes, antisémites, anti-musulmans, etc., etc., conformément à la loi telle qu'elle s'applique dans tous les espaces publics. Internet est un espace public s'agissant des réseaux sociaux, et donc la loi doit s'y appliquer aussi. C'est plus compliqué, c'est plus technique. Il faut de nouvelles sanctions, c'est un sujet qui n'est pas propre à la France, qui a aussi évidemment, puisqu'on est sur Internet, des ramifications au-delà du territoire national, donc il y a différents niveaux qui s'articulent, niveau européen notamment, mais enfin, l'impunité qui prévalait jusque-là ne doit plus avoir cours. Voilà, je crois qu'il faut, on peut dire beaucoup de choses, on peut tout dire sur Internet, mais dans le respect d'autrui. Ceci fonde la liberté d'expression en France, et je crois que ça doit continuer à être le cas également sur Internet.
Et la Commission européenne a fait part de ses craintes hein, sur plusieurs points, dont celui d'une mise à mal de la liberté d'expression sur Internet, causée en particulier par les contraintes imposées aux hébergeurs.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un sujet, c'est une préoccupation récurrente qu'il faut évidemment entendre. La loi de Laetitia Avia, donc la loi Avia, contre les contenus haineux illégaux sur Internet, et à une autre source d'inspiration dont on n'a pas parlé, qui est l'Allemagne, puisque une loi similaire a été votée en 2017, et un peu sur le même modèle, avec l'idée de sanctionner les plateformes qui ne font pas leur travail. Et cette loi a suscité de la même manière beaucoup de mécontentement, notamment de la part de la Commission européenne, beaucoup de craintes surtout en réalité. J'entends ça. Je dis juste qu'on est en France et qu'on a une loi qui est une loi très ancienne. Tout ça, ça date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1881, de 1972. La liberté d'expression en France, elle est encadrée. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne sommes pas dans un pays anglo-saxon. Donc nous pouvons dire tout ce que nous voulons, faire état de toutes nos pensées, à condition que ça ne nuise pas à autrui. Le racisme, l'antisémitisme et plein d'autres choses de cette nature-là qui sont fondées, par exemple, sur l'orientation sexuelle, par exemple sur la religion, etc., sont ce qu'on appelle des abus, ou peuvent être plutôt des abus de liberté d'expression. Ça ne relève pas de la liberté d'expression, en France du moins. Et donc, en France, nous devons juste faire en sorte que les lois anciennes que j'ai évoquées soit appliqué autant que faire se peut partout, parce qu'il en va de la qualité du débat public, il en va de la vie démocratique, il en va du civisme, du respect d'autrui, et pour que, effectivement, ces lois soient appliquées, il faut que tous les acteurs concourent à l'application de la loi, y compris les acteurs privés, que sont les plateformes de réseaux sociaux. Et ça n'est pas parce qu'elles ont leur siège social en Californie, ça n'est pas parce qu'elles n'ont pas de représentant légal en France, ça n'est pas parce que Facebook, ça concerne des milliards de personnes dans le monde, que ces plateformes-là, comme en matière de fiscalité, comme pour d'autres plateformes sur la question du droit du travail, eh bien que ces plateformes-là doivent échapper et contourner et ne pas appliquer la loi qui s'applique à tous les citoyens. Donc oui, je comprends que ça puisse susciter des craintes, des critiques, c'est normal, c'est légitime, il en va de notre vie démocratique. En attendant, les lois qui existent depuis longtemps en France et qui correspondent à notre tradition en matière de liberté d'expression, eh bien, elles doivent simplement être appliquées. Et cela, bien, c'est dans l'intérêt, encore une fois, de notre démocratie, tout simplement.
Vous l'évoquiez, Karim Amelal, lors de la première partie de cette émission, vous avez développé l'organisation citoyenne Civique FAB. C'est une organisation qui travaille, entre autres, sur le dialogue interreligieux. Comment cela se traduit ?
Alors, entre autres, on travaille sur Internet, d'ailleurs, sur la question de la lutte contre l'intolérance, de la lutte contre les discours de haine, de la lutte contre différentes formes d'extrémisme. On lance tout un tas de campagnes, de spots, de sensibilisation, etc. On fait ce qu'on appelle du contre-discours par rapport à certaines formes d'extrémisme. On intervient aussi sur le terrain et on y intervient à travers effectivement du dialogue interreligieux, alors qui donne lieu sur un certain nombre de sujets, et bien tout simplement à des discussions avec des jeunes ou des discussions entre responsables religieux, entre responsables du culte, musulmans, juifs, chrétiens, que nous allons interviewer, ça donne lieu à des clips ou à des spots que nous réalisons sur la question, sur le fait religieux, pour essayer de désenclaver les religions et de faire en sorte que, certaines personnes qui croient à une religion, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens, eh bien, ne soient pas enclavés sur un territoire de pensée ou un territoire de conviction, mais au contraire, qu'ils puissent et qu'ils soient enclins à aller vers l'autre, à aller vers les autres. Voilà, c'est vraiment ce qui m'anime, l'idée de dépasser les frontières intellectuelles, les frontières physiques, les frontières ethniques, les frontières sociales. Je suis vraiment, si j'ose dire, un apôtre de la rencontre et du dialogue en matière religieuse, en matière convictionnelle plus exactement, y compris à l'égard de ceux qui ne croient pas. Je crois que c'est important que les non-croyants et les croyants dialoguent aussi ensemble sur un certain nombre de faits de civilisation, de sujets importants. Je pense en particulier à la bioéthique, par exemple. Donc, c'est ce que nous faisons à une échelle modeste, qui est celle d'une association. Et puis, on intervient aussi d'une autre manière, avec des jeunes en situation de vulnérabilité, un peu partout, à travers la créativité, en les faisant travailler sur des courts-métrages, et tout ça pour les réarmer sur le plan critique. On a développé un programme qui s'appelle Sens Critique et qui vise à encourager l'esprit critique des jeunes en particulier en difficulté, en les faisant travailler leur créativité, en stimulant leur créativité. Ça marche très très bien et on fait ça un peu partout en France.
Alors je vous propose justement de dépasser une frontière, de changer de rive même, avec un regard sur l'Algérie, les Algériens qui sont appelés à voter. Jeudi prochain, Karim Amelal, vous avez cofondé le média numérique choufchouf.com, c'est le premier média vidéo participatif d'information sur l'Algérie. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler vos liens avec ce pays ?
Oui, bien sûr, mon père est algérien, ma mère est française. J'ai passé mon enfance à Alger, je suis né à Paris, mais j'ai passé un certain nombre d'années à Alger, et j'ai toujours gardé des liens familiaux très forts avec l'Algérie, dont j'ai la nationalité, hein, je suis français et algérien, et effectivement j'ai cofondé un média social, c'était en 2013, il s'appelle choufchouf.com, dont je m'occupe plus aujourd'hui, mais qui continue à vivre sur les réseaux sociaux grâce à tout un tas de journalistes et d'activistes, de militants très engagés. Et bon, je garde toujours c'est plus qu'un œil, hein, je suis vraiment très 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 soucieux de la qualité de la relation franco-algérienne. J'avais accompagné le président Macron d'ailleurs à Alger avec d'autres quand il y a été en décembre 2017. Et voilà, je suis évidemment ce qui se passe, alors avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'inquiétude. Et puis, j'essaye de nourrir à mon échelle et à ma place, vraiment, c'est-à-dire ici en France et à Paris en particulier, le dialogue avec l'Algérie, avec les Algériens, en essayant de là aussi, à mon échelle, de déconstruire peut-être certains préjugés, certaines idées reçues qui ont parfois la vie dure s'agissant d'Algérie. Et puis j'ai participé, alors avec Chouchouf et puis en dehors ou parallèlement, à plusieurs projets, plusieurs expériences entre les deux rives. D'ailleurs, je salue en ce moment un projet dont je fais partie, là aussi avec beaucoup d'autres, mais qui est conduit par Rachid Arab, le journaliste Rachid Arab, sur la création d'une plateforme médiatique entre la France et l'Algérie. Bon, c'est un projet qui me paraît plus pertinent que jamais et plus d'actualité que jamais. Voilà, je participe à différentes choses comme ça et du coup je continue d'avoir non seulement un œil mais plus que ça, enfin une partie de moi en Algérie.
Et vous avez bien entendu suivi hein, cette mobilisation populaire qui dure depuis février dernier. Jeudi prochain, les Algériens seront appelés aux urnes, les Algériens de l'étranger le sont depuis samedi dernier. Est-ce que vous comprenez le rejet de cette élection par une partie de la population algérienne ?
Alors oui, bien sûr, je comprends le rejet, je comprends le mouvement. D'ailleurs, il se trouve que vous demandiez comment je contribuais à la relation franco-algérienne. J'ai publié mon dernier roman là qui est sorti en mai 2019, qui s'appelle Dernières heures avant l'aurore, parle de l'Algérie et précisément brosser un tableau apocalyptique de l'Algérie de Bouteflika, en pressentant un petit peu, rien de prophétique, hein, mais en imaginant comme beaucoup d'autres ce qui pouvait se passer et ce qui s'est passé finalement, c'est-à-dire ce formidable mouvement de contestation pacifique, civique, qui déferle pas qu'à Alger, mais un peu partout depuis le 22 février. Et oui, alors pour répondre à votre question, mais c'est évidemment lié, je comprends la défiance. C'est une défiance considérable qui s'exprime depuis le 22 février, qui s'exprime par rapport au pouvoir précédent qui a en partie disparu, en partie, hein, pas seulement, qui était incarné par Bouteflika, et aussi bien sûr, et bien par l'élection présidentielle de la semaine prochaine, parce que c'est un peu la même chose, c'est un peu la même histoire, c'est un peu
de cette semaine même, oui.
De cette semaine. C'est un peu le même processus qui est en cours. C'est un peu le même régime qui est aux manettes, même si un certain nombre de visages connus ont disparu. Bien, il y en a un certain nombre, et en particulier du côté du chef d'état-major, par exemple, qui continue de tirer les ficelles, ou en tout cas de diriger le pays de facto. Donc voilà, on est loin d'une transition véritablement démocratique à laquelle, bon, moi, j'aspire avec, je pense, beaucoup d'autres Algériens. Après, moi, je ne veux pas donner de leçons aux Algériens. Je suis évidemment très enthousiaste en tant que démocrate par rapport à ce qui se passe. J'aimerais que ça aille jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire qu'une véritable transition démocratique apparaisse ou voit le jour et qui signifie eh bien, la fin ou la disparition du régime actuel. Je pense que ça va prendre encore du temps et que il faut garder espoir, même si effectivement la situation aujourd'hui eh bien m'inquiète beaucoup.
Et vous rappelez que vous ne souhaitez pas donner de leçons et vous avez constaté que la résolution du Parlement européen sur la situation des libertés en Algérie, cette résolution non contraignante, a été très critiquée au sein même de l'opposition algérienne.
Oui, bien sûr. Elle a été critiquée. Après, vous savez, en Algérie, c'est pour ça que je c'est pas que je reste prudent, mais je rappelle qu'on n'est pas là pour donner des leçons et pour être pour leur dire comme pour dire aux Algériens comment il faut faire. Ils sont suffisamment grands pour faire tout ça, pour le savoir et pour faire tout ça eux-mêmes. Et puis en Algérie, il y a toujours cette idée que beaucoup de choses viennent de l'extérieur. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le parti de la France, la main de l'étranger. On a toujours un peu souvent avec beaucoup de paranoïa. D'ailleurs, je crois l'idée, la suspicion qu'il y a des intentions malveillantes qui s'exprimeraient à l'étranger. Alors évidemment, en partie en France, en particulier en France, puisque c'est l'ancienne puissance coloniale, mais pas que, hein, d'ailleurs, puisque tantôt c'est l'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis, la France. Parfois, évidemment, c'est juste. Moi, honnêtement, j'en sais rien. Je dis juste que là, pas en revanche, s'agissant de cette résolution. Oui, c'était point de vue du Parlement européen et ceux qui ont porté cette résolution, c'était un encouragement à la démocratie. Et bon, je comprends que des encouragements à la démocratie, d'où qu'ils viennent, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, de l'Algérie, soient moyennement bien perçus par les tenants du pouvoir en place et par les caciques du régime qui tiennent à leur élection présidentielle. Voilà.
Merci, Karim Amelal.
Merci à vous.
Tête de liste La République En Marche aux élections municipales dans le 10e arrondissement de Paris aux côtés de Benjamin Griveaux. Vous êtes écrivain, enseignant à Sciences Po Paris notamment. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire.